DW. Info Matin.
Bonjour à toutes et à tous et bon réveil sur les ondes de la radio internationale allemande DW. Nous sommes le lundi 26 août 2019, il est 7h en temps universel, 2h de plus en Allemagne. Au micro pour vous présenter cette matinale, Sandrine Blanchard, et je serai rejointe dans quelques instants par Constance Fischer. À la une, 7 mois après l'investiture du président Tshisekedi, le nouveau gouvernement congolais a enfin été dévoilé. La majorité des postes revient au FCC, la coalition pro-Kabila. Le président gabonais est-il encore apte à gouverner malgré l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime l'an dernier? Une question délicate sur laquelle la cour d'appel de Libreville doit se pencher aujourd'hui. Et puis, ce lundi, nous retrouvons aussi notre série sur la fonction publique en Afrique. Et l'épisode du jour va nous amener au Cameroun, où les autorités ont déclaré en 2018 la guerre aux fonctionnaires fictifs, avec pour le moment des résultats plutôt mitigés, comme nous allons le voir. Mais il y aura aussi du sport dans Info Matin avec Sophie Sabini aujourd'hui. Bonjour Sophie.
Bonjour à toutes et à tous. On reviendra évidemment sur la deuxième journée de Bundesliga qui a eu lieu ce week-end avec les victoires du Borussia Dortmund et celle du Bayern Munich qui a fait couler beaucoup d'encre en raison de l'arbitrage.
Oui, 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 on vous retrouve tout à l'heure et tout de suite le Flash Info. Le climat et la protection des espèces au cœur des dernières consultations du sommet du G7. La rencontre de Biarritz s'est refermée comme prévu et pour la première fois de l'histoire du sommet, sans déclaration finale. Parmi les autres thèmes abordés, l'Iran, avec la visite du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord commercial bilatéral de principe avec le Japon et réitéré son soutien à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui tente, lui, de renégocier avec l'UE les modalités du Brexit. Pas question, en revanche, pour Washington de lâcher du lest dans le bras de fer commercial qui l'oppose à la Chine. La Russie devra patienter encore avant d'être réintégrée au club des grandes puissances dont elle a été exclue il y a 5 ans, même si le G7 promet un renforcement du dialogue avec Moscou au sujet de la guerre en Ukraine notamment. Et puis à Biarritz, il a aussi été question des incendies qui ravagent la forêt amazonienne. Des avions militaires ont été déployés dans la région des incendies. Des vidéos du ministère de la Défense montrent des avions qui lâchent des milliers de litres d'eau pour lutter contre les flammes. 7 États régionaux seraient concernés. Le ton est monté ces derniers jours entre les dirigeants brésiliens et français. João Bolsonaro refuse l'aide proposée par Emmanuel Macron pour s'attaquer au feu. La chancelière allemande Angela Merkel a fait part, elle, de sa préoccupation.
Es folgt ein langes Engagement.
Nous allons continuer à nous engager. L'Allemagne va garder contact avec le Brésil pour lui exposer son point de vue. Bien sûr qu'il s'agit du territoire brésilien, mais cela concerne la forêt vierge et donc le monde entier. Le poumon de notre planète est touché. Il faut que nous trouvions ensemble des solutions.
Und deshalb müssen wir hier auch gemeinsame Lösungen finden.
Et puis, comme toujours, le G7 a aussi été l'occasion pour des associations altermondialistes de donner de la voix contre le système en place. Les manifestants ont appelé notamment à sauver l'Amazonie, à respecter les engagements environnementaux, à davantage de solidarité avec les réfugiés et à renoncer à un système économique qui creuse les inégalités dans le monde. Le HCR réclame à la Grèce d'améliorer l'accueil des demandeurs d'asile mineurs dans les camps de réfugiés. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés demande aux autorités grecques de transférer d'urgence les jeunes migrants dans des lieux sûrs. Sur l'île de Lesbos, un jeune Afghan de 15 ans a poignardé à mort l'un de ses compatriotes et blessé 2 autres. Ça s'est passé dans le camp de migrants de Moria. Pour le patron du HCR, ce camp n'est pas adapté à des enfants et des jeunes déjà traumatisés par ce qu'ils ont vécu sur la route de leur migration. Toujours à propos de réfugiés, près de 200 000 membres de l'ethnie musulmane des Rohingyas ont manifesté hier dans un camp au Bangladesh. Ils entendaient ainsi marquer le 2e anniversaire de leur exil de Birmanie. Toujours des affrontements entre police et manifestants à Hong Kong. Hier, pour la première fois, un policier a tiré au moins une fois avec son arme à feu. Les forces de l'ordre ont également employé des canons à eau pour disperser les manifestants pro-démocratie. Et puis un ULM et un hélicoptère sont entrés en collision. Ça s'est passé à Majorque. 7 personnes sont mortes dans l'accident. Parmi les victimes, un couple d'Allemands et leurs 2 fils. Les autorités des Baléares ont décrété 3 jours de deuil.
DW.
Les négociations auront duré des mois. Finalement, le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo a enfin été dévoilé dans la nuit, 7 mois après la toute première transition pacifique du pouvoir entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila. Leurs 2 camps ont fait coalition pour mettre en place cette nouvelle coalition gouvernementale. Les explications de notre correspondant à Kinshasa, Salé Mwanamilongo.
C'est finalement 66 membres au lieu de 65 convenus lors des discussions entre le FCC et le CACH. Un nouveau poste ministériel, celui du ministre délégué aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, a été créé sur l'instruction du président Félix Tshisekedi. Dans ce nouveau gouvernement, le FCC de Joseph Kabila garde ainsi certains ministères régaliens tels que celui de la justice et de la défense. Les finances, les mines, les portefeuilles ainsi que les plans reviennent aussi au FCC. En revanche, la coalition CACH du président Félix Tshisekedi obtient des ministères de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères ainsi que celui du budget. Au-delà du Premier ministre, ce nouveau gouvernement a 5 vice-premiers ministres, dont celui de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankondé, cadre de l'UDPS, et Mme Élisée Ninembwe, ancienne questeur de l'Assemblée nationale, devient la vice-première ministre et ministre du Plan. Jean-Baudouin Maillot, secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe, est nommé vice-première ministre et ministre du Budget. Autre particularité de ce nouveau gouvernement, c'est notamment la faible représentativité des femmes, avec 17% seulement. 77% des membres du gouvernement sont de nouvelles figures. Mais il y a eu quelques rescapés du régime Kabila, notamment Azarias Rouberois, qui garde le ministère de la décentralisation, et Thomas Louaka, ministre de l'Enseignement supérieur. Selon le Premier ministre, son gouvernement respecte la représentativité des provinces. Signalons enfin qu'il n'y a pas eu d'ouverture à l'opposition pour ce premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Salut mon ami Longo, à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Alors 83% d'hommes, 17% de femmes, 66 membres dans ce nouveau gouvernement congolais. Les 26 provinces de la RDC ont toutes été servies au sein du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Ilunga et le chef de la fondation Konrad Adenauer de Kinshasa. Notez ce matin que parmi les nouveaux ministres, même si la part belle a été faite à la coalition FCC favorable à l'ancien président Joseph Kabila, aucun des 15 hauts responsables du régime Kabila qui font partie des listes des personnes sous sanctions européennes ne figure dans cette nouvelle équipe. Un petit mot de complément par Constance Fischer qui nous a rejoint. Bonjour Constance.
Effectivement, bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Oui, juste pour dire encore que le président Félix Tshisekedi, maintenant qu'il a donc nommé le gouvernement, eh bien il se rend dès ce lundi à Yokohama, c'est au Japon, et ce pour participer à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, plus connue peut-être sous le nom de TICAD. Elle se tiendra cette conférence jusqu'au 30 août en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et bien sûr du Japon.
Vous écoutez la DW.
Vous écoutez toujours Info Matin, il est 7h. 9 exactement en temps universel. C'est aujourd'hui que la cour d'appel de la capitale gabonaise Libreville doit se pencher sur l'état de santé du président Ali Bongo.
Oui, à l'origine de cette procédure, il y a le collectif Appel à agir qui exige la désignation d'un expert chargé de déterminer si Ali Bongo est apte à assumer ses charges de chef de l'État depuis son AVC. C'était en octobre 2018.
Alors c'est une exigence de transparence à laquelle refuse de se plier le pouvoir. Une situation qui en rappelle d'autres dans d'autres pays, comme nous le rappelle Eric Topona.
Effectivement, une opacité entoure l'état de santé de la plupart des dirigeants des pays d'Afrique au sud du Sahara. Qu'il s'agisse d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, Paul Biya au Cameroun, Idriss Déby Itno au Tchad ou encore Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, aucun d'entre eux ne communique un certificat médical en cas d'ennui de santé, laissant ainsi la voie libre aux rumeurs, comme par exemple avec Paul Biya, le président camerounais qui a été plusieurs fois donné pour mort. Une situation qui irrite Jean-Gaspard Ntoutoum Aï, qui est l'un des membres fondateurs du collectif Appel à agir et commissaire en charge du budget à l'Union nationale, un parti d'opposition au Gabon.
En tant que Gabonais, j'exige une transparence sur la capacité du président de la République de mon pays à exercer ses fonctions. Je suis partisan de ce qu'il en soit ainsi pour tous les autres pays. Je ne le demande pas pour le Gabon seulement. Pour preuve, les Algériens l'ont exigé et ont fini par l'obtenir.
En réponse aux exigences du collectif Appel à agir, Libreville affirme que la constitution gabonaise n'oblige pas le président Ali Bongo Ondimba à se soumettre à une expertise médicale devant prouver son aptitude à diriger le Gabon. Une fausse excuse selon l'analyste politique camerounais Louis Kemayo.
La constitution n'est pas un document figé dans le temps. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il ne serait pas saugrenu aujourd'hui de se poser la question et d'avoir une réponse objective sur les facultés du président actuel à diriger son pays ou pas. Il est important que l'on rassure les populations et de ce point de vue, généraliser le contrôle et les examens des personnes qui dirigent les pays ne serait pas une mauvaise idée.
Rappelons que gravement malade, l'ancien président tunisien Habib Bourguiba avait ainsi été destitué de ses fonctions pour sénilité en 1987. Ici en Allemagne, les tremblements dont a été victime à plusieurs reprises cet été la chancelière Angela Merkel, ces tremblements ont suscité de nombreuses inquiétudes au sein de l'opinion. Plusieurs journaux estiment en effet que l'état de santé d'Angela Merkel est désormais un enjeu politique.
Et si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, rendez-vous dans notre médiathèque pour écouter ou réécouter l'Arbre à Palabre qui a été diffusé ce week-end, animé par Eric Topona. Il était question justement de l'état de santé du président gabonais.
Oui, et alors que cet arbre était enregistré, eh bien la HAC, l'autorité de régulation des médias au Gabon, a suspendu pour 2 mois l'accréditation de notre confrère de RFI, estimant mensonger un article mettant en cause, selon elle, l'intégrité physique du président Bongo. La semaine dernière, la HAC avait également suspendu pour 3 mois l'un des principaux sites privés d'information en ligne du pays, Gabon Review. Raison invoquée, un article ayant nui à l'image de la HAC par des insinuations malveillantes.
Que vous inspire à vous ces débats sur l'état de santé des dirigeants? Qu'attendez-vous de la communication officielle de la part donc des autorités concernant ce sujet? N'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook. DW Afrique.
Et toujours à propos de dirigeants qui s'accrochent au pouvoir, lui a fini par le lâcher. Il s'agit de Mangosuthu Buthelezi, le chef historique du parti Zulu Inkatha en Afrique du Sud. Et il a annoncé qu'il démissionnait après 44 ans à son poste et à près de 91 ans. Fondateur de l'IFP en 1975, son règne à la tête du parti a été marqué par des guerres territoriales sanglantes avec les militants de l'ANC, le Congrès national africain, pendant les années 80 et 90.
Et comme je vous l'annonçais en début de ce journal, nous retrouvons ce matin notre série consacrée à la fonction publique en Afrique avec le Cameroun aujourd'hui où des dizaines de milliers de personnes continueraient à percevoir un salaire de fonctionnaire alors qu'en fait ils ne travaillent plus dans la fonction publique et même pour certains ne vivent même pas au Cameroun. Et puis il y a aussi le cas de ceux qui perçoivent les salaires d'autres personnes qui ne sont plus fonctionnaires.
Alors, pour tenter de remédier à cette situation qui fait perdre évidemment beaucoup d'argent au trésor public, le gouvernement camerounais a lancé l'an dernier une opération de comptage physique de ses agents de l'État. Avec quel résultat? Eh bien, c'est ce que nous voyons tout de suite avec Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé.
Ces chiffres ont été relayés par la presse locale et internationale et pourtant, le ministère des Finances, Minfi, ne les reconnaît pas. Gédéon Adjomon est le chef de cellule de la division de la communication et des relations publiques au MINFI. Il affirme que ces listes ne sont pas fiables.
C'est des listes qui ont toujours circulé sur les réseaux sociaux depuis des années. Certains plaisantins se sont amusés à diffuser cette liste sur les réseaux sociaux, mais je dois dire que c'est une liste qui n'a rien de fiable. C'est une liste qui date de 2015, qui avait été publiée par le ministère de la fonction publique dans le cadre de l'opération de mise en œuvre du projet CIGIPES2.
Gédéon Adjomon assure par ailleurs que l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en avril 2018 est achevée et les résultats seront rendus publics.
Le problème des fonctionnaires fictifs est effectivement un problème réel et c'est ce contre quoi le ministre des Finances est engagé au jour d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour traquer ces fonctionnaires fictifs que le ministre des Finances a lancé l'opération de comptage physique des personnels de l'État en 2018. Au jour d'aujourd'hui, cette opération est achevée et le ministre des Finances publiera les résultats en temps opportun.
En dépit des mesures mises sur pied par le gouvernement camerounais pour traquer les fonctionnaires fictifs, il faut dire que le phénomène a pris de l'ampleur. Dieudonné est comptable et travaille dans un ministère de la place. Il affirme qu'ils sont nombreux, ces agents de l'État qui émargent irrégulièrement.
C'est une réalité dans la fonction publique. Nous avons un collègue qui est en France. Il a fait une autre école de formation et ici, il a réussi à avoir une procuration. Donc, étant là-bas, il va percevoir son argent normalement à la fin du mois. Ces cas sont les gens ici. L'administration de notre pays fonctionne à son rythme. Tous ces cas sont signalés.
À travers cette opération de comptage physique, le gouvernement camerounais essaye de trouver des solutions qui vont permettre de nettoyer le fichier solde et de réaliser des économies qui vont ajuster les dépenses salariales. Elisabeth Hassen à Yaoundé pour la Deutsche Welle.
Et en plus bref, les autorités soudanaises ont décrété hier l'état d'urgence dans l'état de la Mer Rouge dans l'est du pays et elles ont ordonné l'ouverture d'une enquête après des affrontements tribaux ayant fait au moins 16 morts. Les raisons de ces heurts ne sont pas connues. Le gouverneur de la province et le chef de la sécurité ont été démis de leurs fonctions. Et puis au Kenya, au moins 12 personnes ont été tuées dans le comté de Marsabit dans le nord du pays. Deux attaques menées samedi et dimanche par des voleurs de bétail soupçonnés d'être des Éthiopiens d'ethnie Borana. Selon la police, les victimes sont des éleveurs d'ethnie Gabra.
Et puis en bref, toujours, la justice algérienne a désigné des administrateurs afin d'assurer la gestion des sociétés qui appartiennent ou appartenaient à des hommes d'affaires proches du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Des hommes d'affaires incarcérés pour des faits supposés de corruption. Cette mesure concerne notamment la première entreprise privée de bâtiments en Algérie ou encore un groupe qui possède l'un des plus importants réseaux de concessionnaires automobiles du pays.
À 9h16 en Allemagne, on passe à l'extrait de la semaine du magazine Droits et Libertés. Et Sandrine, cette semaine, vous nous emmenez en Turquie faire des fouilles archéologiques au bord de la mer Égée. Écoutez.
Cette semaine, dans Droits et Libertés, nous revenons sur un projet mis en place par l'Institut allemand d'archéologie et la fondation Gerda Henkel sur le site archéologique de Pergame en Turquie pour sensibiliser les habitants du quartier à la richesse de leur patrimoine, mais aussi leur faire profiter de la présence des chercheurs.
On pourrait constituer une réserve d'outils que les habitants du quartier pourraient aussi utiliser quand ils en ont besoin.
Retrouvez le magazine Droits et Libertés le mardi et le jeudi à 17h30 dans Universel.
DW. Le sport.
Et on vous retrouve Sophie Serbini pour la page sport et on commence avec la Bundesliga et la deuxième journée qui se disputait ce week-end, notamment sur nos antennes.
Et oui, avec le Borussia Dortmund qui reste pour le moment en tête du classement. Vendredi soir, en ouverture de cette deuxième journée, les hommes de Lucien Favre se sont imposés 3-1 face à Cologne. Une victoire logique mais qui a mis du temps à se dessiner puisque le BVB était mené à l'issue des 45 premières minutes suite à un but de Dominik Drexler. Dortmund s'est bien repris en deuxième mi-temps et a fini par s'imposer grâce à des buts signés Jadon Sancho, Achraf Hakimi et Paco Alcacer. Le tournant du match a été l'entrée en jeu de Julian Brandt qui a transfiguré l'équipe de Lucien Favre. On écoute le jeune international allemand après la rencontre.
D'une manière générale, les changements, c'est toujours important. Et ce, quels que soient les joueurs qui rentrent. Ce soir, c'était d'abord Achraf Hakimi et moi, puis Jakob Brun Larsen. Qui que ce soit, dès qu'il rentre, il essaye de donner une nouvelle impulsion à son équipe. Aujourd'hui, ça a parfaitement fonctionné avec Achraf qui a marqué le but du 2-1. À l'avenir, il y aura d'autres joueurs qui vont marquer lors de leur entrée en jeu. Nous avons besoin de tout le monde dans cette équipe, notamment des remplaçants.
Alors, le Borussia est en tête, Sophie, mais seulement à la différence de but, puisque quatre autres clubs ont remporté leur deuxième victoire en deux matchs.
Et oui, il s'agit de Wolfsburg qui s'est imposé face au Hertha Berlin 3-0, de Fribourg qui a battu le promu Paderborn 3-1, de Leverkusen qui s'est défait de son voisin le Fortuna Düsseldorf 3-1, et du RB Leipzig qui a dominé l'Eintracht Francfort 2-1. Toutes ces équipes sont donc dans le même nombre de points que le BVB.
Et puis juste derrière, une semaine après son match nul surprise face au Hertha Berlin, le Bayern Munich s'est repris face à Schalke 04.
Et oui, les Bavarois se sont imposés 3-0 à Gelsenkirchen grâce à un triplé de Robert Lewandowski. Mais cette victoire du Bayern a fait couler beaucoup d'encre depuis samedi, puisque deux mains effectuées dans la surface de réparation par des joueurs bavarois, en l'occurrence Benjamin Pavard et Ivan Perisic, n'ont pas été sifflées. L'arbitre de la rencontre, Marco Fritz, a déclaré après coup que si les assistants en charge de l'arbitrage vidéo lui avaient proposé de regarder le ralenti, il aurait sans aucun doute sifflé pénalty, mais ces derniers ne l'ont pas averti. Un fait que ne comprend pas David Wagner, l'entraîneur des Knappen. Après la rencontre, j'ai revu les actions d'une seule perspective, mais cela m'a suffi. Sur la première, le bras est décollé, il est à 90 degrés, la tête de Nastasic allait vers le but, voire dans le but, et elle a été bloquée. Sur la seconde action, la main est encore plus claire, Ivan Perisic est dans le mur, il voit la balle arriver de loin et fait un geste volontaire. Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été sifflé. Pour moi, il n'y a pas de discussion possible, ce sont deux mains qui sont claires et il y aurait dû avoir pénalty à chaque fois.
Et dans les autres rencontres, on note notamment le premier point pris par l'Union Berlin en Bundesliga.
Et oui, le club de l'Est de la capitale a obtenu le point du match nul sur la pelouse d'Augsbourg 1-1, et ce malgré une expulsion en fin de rencontre. Le Borussia Mönchengladbach s'est lui imposé 3-1 face à Mayence, avec notamment le premier but sous ses nouvelles couleurs de Brel Embolo. Et enfin, et vous avez pu le suivre sur nos antennes avec Ali Farhat et Yann Durand, Hoffenheim qui a battu le Werder Bremen 3-2, avec là aussi un but refusé pour le Werder Bremen qui a fait un petit peu scandale. L'arbitrage qui n'a pas trop plu ce week-end.
On part en Afrique, on jouait ce week-end les matchs retour du tour préliminaire des Coupes continentales.
Et en Ligue des champions de la CAF, les favoris sont passés. Le Raja Casablanca, l'USM Alger, l'Étoile du Sahel, Mamelodi Sundowns, l'AS Vita Club, Oroya et le Primero de Agosto, pour ne citer que, se sont qualifiés. Les clubs égyptiens n'ont pas fait de quartier puisque Zamalek et Al Ahly se sont imposés avec un score sur les deux matchs de 13-0, alors que les Tchadiens d'Elexport se sont eux qualifiés pour la première fois de l'histoire pour le tour de cadrage. En Coupe de la Confédération, ça passe pour l'AS Kigali, le Pyramide FC, le DC Motema Pembe, l'AS Pélican ou encore le Santoba FC.
Et au Maroc, on a assisté aussi à la suite des Jeux africains et beaucoup de médailles distribuées ce week-end.
Et oui, avec en basket notamment la finale du tournoi 3-3 chez les hommes, la victoire de Madagascar sur l'Égypte 21-19. Chez les femmes, c'est le Nigeria qui s'est imposé d'un point face au Mali 21-20. En haltérophilie, Madagascar a glané deux médailles d'or, tandis qu'en tennis de table, l'Égypte a remporté le double mixte. En natation, les dernières épreuves ont largement été dominées par l'Égypte et l'Afrique du Sud, les deux nations remportant chacune trois médailles d'or supplémentaires sur la dernière journée des épreuves aquatiques. À noter aujourd'hui le début des épreuves d'athlétisme avec notamment les séries du 100 mètres dames et l'entrée en lice de la star ivoirienne Marie-Josée Talou.
Et enfin, en tennis, commence ce soir à 15h TU, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'US Open.
Et avec un choc pour commencer chez les femmes qui opposent deux anciennes numéro 1 mondiales, Serena Williams et Maria Sharapova. C'est la rencontre phare de ce premier tour, surtout parce que les deux femmes n'ont jamais caché le fait de ne pas s'apprécier en dehors des cours. Une rencontre tellement attendue outre-Atlantique que même la tenante du titre, Naomi Osaka, n'a pas pu cacher son impatience en conférence de presse. Évidemment que je vais regarder. Vous aussi, tout New York va regarder ce match. Et chez les hommes, le tenant du titre Novak Djokovic fera lui son entrée face à Roberto Carbelas Baena et ça sera aussi aujourd'hui.
Merci Sophie pour tous ces détails et on vous retrouve donc ce soir à 17h, temps universel et des poussières.
À vous la parole.
Mépris, racisme, diktat de la minceur, lasse de se voir réduite à un rôle de potiche. Des hôtesses d'accueil se rebellent contre le sexisme qui gangrène leur métier et multiplient les interventions sur les réseaux sociaux et par le biais de pétitions.
Elles ont même lancé un hashtag, le hashtag patapotiche. Il vous a fait réagir, c'est Nafissa Amadou qui a compilé vos messages ce matin.
Le hashtag patapotiche est créé pour dénoncer aussi les critères imposés aux filles qui veulent devenir hôtesses, comme par exemple avoir une taille 36, des talons hauts, des cheveux lisses ou être belle. Ces critères ne datent pas d'aujourd'hui, selon notre auditrice Déborah depuis Kinshasa en RDC. Elle trouve d'ailleurs cela discriminatoire.
Depuis la nuit des temps. Et déjà, quand on grandissait, quand tu es mince, tu es belle, on voit que tu ferais mieux être une hôtesse, tu es belle, tu parles bien, tu es belle de figure. Tous ces critères-là comptent parce que ces agences, ces entreprises, quand on a une activité, on a besoin d'accueillir de personnes. C'est pour cela que ces agences cherchent de personnes qui sont belles. Mais en tant que domaine de profession, je vois que c'est discriminatoire d'écarter certaines femmes qui aspirent pour ces domaines.
Apache de Lomé, pour sa part, accuse ses filles de provoquer les hommes. Il tient à préciser tout de même que si certains organisateurs de foires ou de salons préfèrent recruter des femmes comme hôtesses, c'est tout simplement parce qu'elles attirent plus les clients. Sur Twitter, Cécilia dit ne pas être étonnée qu'elles soient considérées comme des potiches. On voit très souvent des marques utiliser une photo de femme en maillot de bain pour vendre une voiture, ce qui signifie que la femme est traitée comme un objet, s'explique Cécilia. Toujours sur Twitter, Julien reste mitigé. Qu'on veuille exposer au monde les problèmes que les femmes peuvent avoir au travail est une chose noble, mais qu'on cantonne le problème aux hôtesses, c'est là que ça ne va pas. Julien estime que les initiatrices de ce hashtag patapotiche doivent défendre toutes les femmes victimes de discrimination dans leur travail. Un autre tuto, Blueman, ajoute que les comportements déplacés de certains hommes ne sont pas liés à leur nature, mais tout simplement sont un problème d'éducation.
Et sur ces bonnes paroles, on arrive à la fin de cette édition. Il est 7h26 en temps universel. Le rappel des titres, Sandrine.
La grosse nouvelle du jour sur le continent africain, c'est l'annonce du nouveau gouvernement congolais après 7 mois de négociations. Il fait la part belle à la coalition FCC pro-Kabila. Beaucoup d'hommes, souvent qui n'ont jamais été ministres. Et puis l'arrivée dans l'équipe gouvernementale des anciens gouverneurs du Nord Kivu et du Haut Katanga. La nouvelle chef de la diplomatie congolaise, c'est Marie Toumba Nzeza. Elle est membre de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi. Deux autres femmes sont ministres d'État, Béatrice Lomeya au genre et Néné Nkoulou à l'emploi. Et puis la fin du G7 sans communiqué final, marqué par des négociations commerciales, le renforcement annoncé du dialogue avec la Russie et l'arrivée surprise du chef de la diplomatie iranienne.
Et nous reviendrons bien sûr, Sandrine, sur la formation du gouvernement en RDC. Ce soir dans notre journal à 17h en temps universel. En attendant, allez faire un tour sur notre site internet dw.com/français. Excellente journée à tous. Merci Sandrine, merci à la technique et à bientôt.
Tchuss! La Guinée, le Cap.
assassins.